Nzamba.
Nzambira samirana. Le journal avec Francine Cagnani.
Nous sommes jeudi 12 janvier 2023. Bonjour, bonsoir. Merci pour votre fidélité à la radio Nzamba Gate Kakawe. Les principaux titres de ce journal. L'année 2023 a été particulièrement sanglante au Burundi, selon la Ligue burundaise des droits de l'homme, ITK. L'organisation dresse un bilan annuel de plus de 460 personnes tuées et plus de 40 autres enlevées. Agression physique contre la journaliste Floriane Ilangavié par un de ses co-détenus, dont la prison centrale de Muyinga. Des sources sur place affirment que la sécurité de cette journaliste n'est pas garantie dans cet établissement pénitentiaire. Une femme réfugiée a été violée par des individus armés, non autrement identifiés. Cela s'est passé au camp de Lusenda, en République démocratique du Congo, dans la nuit du 9 au 10 janvier dernier. Les défenseurs des droits de l'homme expriment leur indignation sur ce cas de viol commis dans un camp de réfugiés pourtant sécurisé par des forces de l'ordre de la RDC. Vous aurez les détails dans ce journal. Bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
L'an 2022 a été caractérisé par la montée des cas de violation des droits humains. C'est ce que révèle la Ligue burundaise des droits de l'homme, ITK. L'organisation vient de publier un rapport annuel où elle montre qu'au moins 460 personnes ont été tuées, tandis que plus de 40 autres ont été enlevées. Mais selon mon cher Nicolas Guizet, président de la Ligue ITK, ces chiffres sont de loin en deçà des chiffres réels des victimes de ces crimes. On l'écoute.
Notre rapport revient sur une comparaison des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Ce qu'on a constaté, il n'y avait pas une amélioration, sauf que ces deux dernières années, il y a eu augmentation de certaines criminalités, à savoir les personnes tuées, les personnes arrêtées. Il y a eu une diminution des personnes arrêtées. Et l'autre chose, c'est que ces criminalités n'ont pas épargné des catégories à protéger, les mineurs et les femmes. Et la RITK, nous sommes conscients que notre rapport n'est pas exhaustif pour différents motifs liés aux ressources humaines disponibles, aux moyens financiers que nous disposons, qui ne nous permettent pas de couvrir tout le pays. Pour dire que les chiffres que nous avons, peut-être qu'ils sont, peuvent représenter 20 à 30%, on ne sait pas. Cette année 2022, la RITK a pu documenter 463 personnes assassinées, dont 270 ont été retrouvées cadavres, éparpillées dans différentes localités, à savoir les ruissons, les marais. Et de là, à l'ITK, nous devons souligner que le phénomène est d'un tellement rapide, sans toutefois faire des enquêtes pour savoir les motifs de ces assassinats, pourquoi, et l'identité de ces personnes assassinées. C'est observé, ce qui montre, donc, il y a des imbonnets à courir, il y a l'administration à la base et les policiers qui sont mobilisés pour faire ces enterrements des cadavres retrouvés. D'où la RITK doute que toutes ces personnes assassinées, il y a une cachette du pouvoir. On a aussi documenté 43 personnes arrêtées, 139 victimes de violences basées sur le genre, 57 torturées et 448 personnes arrêtées arbitrairement. Beaucoup d'autres ne sont pas identifiés. Même s'ils ne sont pas identifiés, c'est au gouvernement, c'est aux institutions en place d'identifier. L'État n'est pas épargné parce que les auteurs ne sont pas identifiés. Du moment que donc, on a des institutions, on a la police, on a l'armée, on a tout, on a la justice, c'est tout. Donc on a des institutions qui peuvent faire des enquêtes pour connaître les vrais auteurs.
C'était Onchar Nicoyadizé, président de la Ligue ITK. Floriane Ilangavié a été victime d'agression physique par un détenu du nom de Nzeimana Eli, surnommé Gasongo. Cela s'est produit dans l'après-midi de ce jeudi. La journaliste Floriane Ilangavié est détenue dans la prison centrale de Muyinga. Selon des témoins de la scène, cela s'est passé sous le nez des agents de la direction de la prison et en présence de visiteurs venus voir les leurs dans cette prison. Les précisions d'Alexandre Niyongeko.
Il était près de 15 heures au moment où Floriane Ilangavié sortait d'un des bureaux de la prison, selon le témoin oculaire. Zeimana Eli l'a attrapé et tiré par force par le bras jusqu'à presque la faire tomber par terre. Selon les mêmes témoins, Florian s'est débattu et a réussi à se tirer de la prise de Zeyman à Eli. Ce dernier s'est mis à lui crier dessus et à la menacer. Des témoins précisent qu'il lui a dit qu'il peut la défigurer et que le week-end, quand les agents de l'administration ne seront pas présents, il va lui montrer son don il est capable et qu'elle va payer du fait de ne pas respecter les autorités. Les autres détenus et même les policiers qui étaient à l'entrée de la prison observaient la scène sans bouger, à part quelques visiteurs qui se sont contentés de crier. Selon des sources au sein de l'établissement pénitentiaire, Zeyman Eli, surnommé Gasongo, est chargé d'ouvrir et de fermer la grille du côté homme, étant protégé du directeur de la prison. Selon les mêmes sources, il fait la pluie et le beau temps au sein de cette maison carcérale. C'est lui qui décide de qui entre et qui sort, car il demande de l'argent aux visiteurs pour appeler les détenus qu'ils viennent voir les jours des visites, ou alors il n'appelle personne s'il ne reçoit pas l'argent exigé. Ces sources affirment que même les policiers de garde ne peuvent rien quand Gasongo refuse l'accès d'une personne à la prison, ou quand il refuse à un détenu de voir ses visiteurs. La rédaction de la radio Inzamba Gatekakawe a appelé par téléphone Serge Sabouandemye, le directeur de la prison de Muyinga. Son téléphone sonnait, mais il ne décrochait pas.
Alexandre Niungeko a précisé que les portes de cette prison ont été fermées plus tôt que d'habitude ce jeudi, selon des sources sur place. Les mêmes sources indiquent que cela serait lié à cette agression contre la journaliste Floriane Ilangabi. Trois de l'âme toujours, une femme réfugiée a été violée en présence de son mari et de ses enfants au camp de Lusenda en République démocratique du Congo. Dans la nuit du 9 au 10 janvier dernier, les présumés auteurs du forfait sont des éléments des groupes armés qui opèrent dans la région. Les réfugiés regrettent que le camp réfugié de Lusenda ne soit plus vivable, faisant remarquer que tout se fait en présence des agents de sécurité qui ne manifestent aucune volonté de les défendre. Ces réfugiés sollicitent la protection de la part du ACR. Les détails avec Pierre Garoung.
Au moment où ces assaillants se sont introduits dans la maison, ils ont commencé à demander de l'argent au chef de famille. Après avoir eu l'argent, ils ont tiré des balles sans viser les habitants de la maison. Ils ont par après pris la femme et ils l'ont violée. Écoutez un enfant de la victime, il raconte les faits.
Ils ont commencé à demander de l'argent. Papa leur a dit qu'il n'en avait pas. Ils lui ont demandé où se trouvait maman. Il n'a pas directement répondu, mais par après, il a demandé à maman d'amener de l'argent. Maman a dit aux assaillants d'aller trouver cet argent dans la chambre des enfants dans un bassin. Ils sont allés et ils ont ramassé l'argent. Ils sont montés sur notre lit et ont coupé l'électricité. Ils ont interpellé maman en lui demandant de les approcher. Quand elle est arrivée au salon, ils ont tiré la première balle, la deuxième, mais aucune des deux balles ne l'a touchée. Dieu merci, aucune personne n'a été touchée. Mais maman a été violée quand papa était sous la bastonnade en lui demandant de leur donner un fusil qu'il l'accusait de posséder.
Même les voisins qui ont appris la mauvaise nouvelle le matin, car ils ont eu peur de secourir, confirment l'information.
Ils ont commencé à leur demander de l'argent. Ils ont frappé le mari à l'aide d'un fusil. Ils ont par après violé la femme. Par la suite, ils ont volé les habits du mari. C'est ça l'information que nous avons pu avoir le matin, car au moment des faits, nous étions enfermés dans les maisons.
Les réfugiés trouvent que le camp de Lusenda est devenu inhabitable, surtout que tout se passe en présence des agents de sécurité qui n'interviennent pas pour sauver les gens. Ils demandent au HCR d'assurer la sécurité des réfugiés ou alors les délocaliser.
Nous constatons que le camp de Lusenda est devenu invivable parce qu'un camp de réfugiés ne laisse pas des va-et-vient aux personnes étrangères au camp qui peuvent leur voler ou leur faire du n'importe quoi. Ce que nous demandons aux défenseurs des droits de l'homme ou aux responsables du camp, c'est de voir comment nous délocaliser ou alors assurer notre sécurité. Aucun policier ne nous vient en secours. Ils ont passé toute une heure dans la maison. Et personne n'est venu à notre secours. Nous sommes vraiment fatigués.
La rédaction de la radio Inzamba, Agathe Kakawe, n'a pas pu joindre par téléphone Didier Numbi, administrateur du camp de Lusenda, pour qu'il dise ce qu'ils sont en train de faire pour sécuriser ces réfugiés.
Fraction de la coalition burundaise des défenseurs des droits humains vivant dans les camps de réfugiés, selon la CBDH Vicar, il faut des enquêtes indépendantes pour confirmer ou infirmer la complicité des forces de l'ordre de la République démocratique du Congo dans ces crimes commis contre les réfugiés burundais. C'est inconcevable, selon la CBDH Vicar, que les rebelles puissent entrer dans un camp qui est sécurisé par des agents de l'ordre et commettre des viols à l'intérieur du camp. On écoute le Paul Sarangabo, vice-président de la coalition CBDH Vicar.
La CBDH Vicar déplore énergétiquement les attaques perpétrées contre les réfugiés burundais qui se trouvent dans le camp de réfugiés en République démocratique du Congo. Ce cas de viol de cette femme s'ajoute aux autres cas de crimes déjà enregistrés qui sont faits dans le camp de réfugiés en RDC. Et ce qui est fort étonnant est que les camps de réfugiés sont sécurisés par la police congolaise ainsi que les militaires qui se trouvent souvent aux alentours des camps. Nous ne comprenons pas comment les groupes rebelles peuvent pénétrer dans les camps jusqu'au niveau de commettre le crime pareil, pendant que les camps de réfugiés sont assaltés par les policiers et les militaires congolais. Nous avons maintes fois montré que la situation sécuritaire là-bas n'est pas bonne suite aux groupes rebelles qui opèrent dans la localité, mais rien n'a été fait. Voilà, ça continue de s'aggraver. Notre demande n'est qu'autre que de demander que ces réfugiés soient sécurisés ou transférés dans d'autres zones où il y a la sécurité. Nous demandons aussi qu'il y ait une enquête approfondie pour voir s'il n'y a pas la complicité des agents de sécurité congolais dans la déstabilité de la sécurité des réfugiés qui se trouvent dans le camp.
Inzamba. Suite de cette édition, le Burundi a approuvé et ratifié le 9 janvier dernier la Charte africaine de la jeunesse. Il s'engage finalement à promouvoir et à protéger les droits des jeunes conformément à cette convention de l'Union africaine mise en place en 2006. Eddie Claude Linazwe nous en dit plus.
La Charte africaine de la jeunesse a été adoptée par l'Union africaine lors d'une conférence internationale tenue le 2 juillet 2006 à Banjul, en Gambie. C'est un instrument fondé sur les droits qui guide l'engagement et l'autonomisation des jeunes en Afrique et consacre leurs droits. C'est une charte qui vise à protéger les jeunes contre toute forme de discrimination et leur garantit la liberté de circulation, la liberté de parole, d'association, de religion et bien d'autres droits humains, tout en s'engageant à promouvoir leur pleine participation dans la société. À travers cette charte, les États parties s'engagent à trouver des solutions aux problèmes majeurs des jeunes, entre autres le chômage, le sous-emploi et la pauvreté qui s'ajoutent à un accès difficile aux services de base, à savoir l'eau, la santé et l'éducation, ainsi qu'une extrême vulnérabilité aux conflits et à la violence. C'est ainsi qu'il devient nécessaire pour les États d'adopter des politiques et des programmes intersectoriels qui répondent de manière globale aux besoins de la jeunesse. Cela veut dire qu'il faut renforcer le système d'emploi des jeunes en orientant les filières de formation vers les offres adaptées aux besoins du marché et vers les métiers d'avenir. La promotion et la protection des droits des jeunes impliquent également que les jeunes doivent être reconnus comme des acteurs de la société comme les autres et que par conséquent, ils peuvent assumer des responsabilités. La Charte africaine de la jeunesse prévoit aussi des devoirs pour les jeunes. En effet, la jeunesse est appelée à être garante de son développement, œuvrer pour l'instauration d'une société libérée de l'abus de drogue, de la violence, l'oppression, l'intimidation et la criminalité. Elle doit également promouvoir la tolérance, la concorde, le respect des autres sans distinction aucune de race, d'ethnie, de genre ou d'affiliation politique.
L'association ACG Génocide Chilimoso, section Suède, se dit indignée par les récentes déclarations du président Évariste Ndayishimiye sur le refus de recueillement par le gouvernement burundais des rescapés et victimes du massacre du 21 octobre 1993 contre les élèves et enseignants Tutsi à Kiwimba. ACG Génocide Chilimoso, section Suède, voit dans cela une manœuvre de clouter les massacres de cette période que le rapport des Nations Unies de 1996 a qualifié de génocide. On écoute plutôt Liliane Ninderiye, elle est présidente de la section suède de l'association ACG Génocide Chilimoso.
Nous avons suivi avec attention les propos du président Évariste Ndayishimiye au sujet du génocide perpétré contre les Tutsis en 1993. AC Génocide de Chirimoso section Suède souligne qu'à cette occasion, Évariste Ndayishimiye a condamné sélectivement les Burundais qui vont se recueillir sur le site d'Okwibubu où reposent les jeunes lycéens d'Okibimba qui ont été brûlés vifs le 21 octobre 1993 par les membres du Frodebu reconvertis par après en miliciens du CNDD-FDD. AC Génocide de Chirimoso section Suède tient à rappeler que les auteurs de ce crime sont ceux qui aujourd'hui occupent des places importantes dans le gouvernement. Cette intervention démontre à suffisance la version qu'Évariste Ndayishimiye et son gouvernement nourrissent à l'encontre des rescapés Tutsis dont le seul crime est d'effectuer un pèlerinage sur un site qui constitue une preuve de génocide que le CNDD-FDD et des autres organisations affiliées ont commis. En tant qu'organisation soucieuse des intérêts des rescapés de ce génocide perpétré contre les Tutsis qui restent impunis, alors que les auteurs ont déjà été identifiés par une commission d'enquête des Nations Unies, à ces génocides section Suède rappelle au peuple burundais et à la communauté internationale que le CNDD-FDD a été mis sur pied par le bureau politique du parti Frodebu responsable du génocide des Tutsis de 1993 et que de surcroît, il a signé des accords de coopération avec d'autres génocidaires rwandais, Interahamwe et ex-FAR pour poursuivre ensemble le programme dans la sous-région des Grands Lacs. Nous réaffirmons que nous menons une lutte contre tout ce qui falsifie l'identité des victimes du génocide de 93 dans le dessein d'assurer l'impunité des auteurs. Notre combat est que la vérité sur le génocide de 1993 soit diffusée et que la justice soit faite pour les nôtres. La vérité et la justice restent nos piliers et le plus jamais ça reste notre devise.
Pour clore ce journal, les commerçants du marché de Matana en province de Louis dénoncent ce qu'ils qualifient de hausse exagérée des prix de location des stands de marché. Un stand est passé de 36 000 francs à 100 000 francs burundais selon ces commerçants. L'autorité communale et provinciale n'a pas encore réagi à ces inquiétudes des commerçants. Les détails avec Karine Doussavé.
Ces commerçants du grand marché de Matana disent qu'avant le début de sa construction, le gouverneur de la province de Bururi les avait mobilisés pour qu'ils puissent contribuer. Selon nos sources sur place, chacun a pu donner sa contribution à la hauteur de ses moyens. Certains ont vendu des lopins de terre, d'autres leur bétail. Ces habitants disent ne pas comprendre comment la commune les exige de signer de nouveaux contrats qui viennent jeter à l'eau tout ce qu'ils ont fait pour la construction de ce marché.
Tous les travaux ont été réalisés par la population. Voilà aujourd'hui que des contrats tombent comme la pluie. Sur ces contrats, il est uniquement mentionné le nom. Ces contrats nous donnent un délai ne dépassant pas 2 jours pour les signer. Ils nous demandent de payer de nouvelles avances. Ils nous exigent de mettre à côté les engagements pris dans le passé. Et pire encore, qu'une réunion n'est organisée dans ce sens. Qu'ils nous viennent en aide, ceux qui le peuvent. Nous n'avons aucune réponse ni de la part de la commune, ni de la part du gouverneur. Nous ne savons plus quoi faire.
D'autres inquiétudes que soulèvent ces commerçants, les projets de ces contrats n'ont même pas le cachet de la commune qui atteste son authenticité. En plus, les nouveaux contrats qui leur sont proposés ont revu à la hausse d'une façon exponentielle le coût de loyer des stands. C'est ainsi qu'ils ont refusé de signer ces contrats. Les mêmes sources révèlent qu'ils ont adressé une correspondance à l'administrateur de la commune Matana, Dieudonné Nkurunziza, mais ils n'ont jamais eu de réponse. Ils ont même demandé une audience au gouverneur de la province de Bururi, le colonel Leonidas Bandenzamaso. Ce dernier ne les a pas accueillis. Ils demandent aux plus hautes autorités du pays de prendre cette affaire en main.
Quand nous analysons ces documents, c'est comme si la commune de Matana n'a aucune autorité pour prendre la décision. Les maisons qui ont été construites par l'État, qui sont gérées par la commune, les loyers ont été revus à la hausse. une maison dont le loyer était fixé à 36 000 et aujourd'hui loué à 100 000 francs. Nous avons adressé une correspondance à monsieur l'administrateur de la commune avec copie au gouverneur. Nous n'avons jamais eu de réponse. Ils ont utilisé de la force pour nous faire signer ces contrats que nous rejetons. Deuxièmement, ils disent que la décision de cette hausse des loyers a été consensuelle. Ce n'est pas du tout vrai. Nous lui avons demandé une audience. Nous ne refusons pas de revoir à la hausse ses coûts, mais qu'il se réfère aux tarifs appliqués pour d'autres marchés ayant le même standard.
Face à toutes ces inquiétudes, la rédaction de la radio Inzamba a appelé par téléphone Dieudonné Nkurunziza, l'administrateur de la commune Matana, tout comme le gouverneur de la province de Burundi, colonel Leonidas Bandenza Maso, pour plus de détails sur ce dossier, mais ils n'ont pas décroché leur téléphone portable.
Merci Karine, et c'est par là que prend fin ce journal. Bien, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous. Au revoir et à la prochaine.